On écoute facile.
On écoute facile.
Una facile ascolta.
On écoute facile.
Ça ascolte, c'est au show.
Französisch leicht gemacht.
Calimera. Matheno, que milao, gallica.
Yes, I would like to speak easily in French.
Apprenez le français.
Hadit se volbim limba francese.
Let's learn French together.
Parles-tu français?
Parles-tu français?
Parle francese.
Je veux parler facilement le français.
Quelle chance de parler facilement le français.
Französisch auf leichte Weise. On écoute facile.
Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français, on retrouve Daniel et Virginia.
Bonjour Daniel Jeanne, aujourd'hui nous allons évoquer les œuvres d'académiciens qui ont écrit sur nos amis les bêtes. Voici un nouveau numéro d'En écoute facile sur les animaux et les académiciens.
Bonjour Virginia, aujourd'hui nous évoquerons pour nos auditeurs un mammifère marin, la baleine.
Et quel auteur avez-vous choisi ?
Jules Michelet.
Ah,
cela vous surprend, n'est-ce pas ?
En effet, je connais Jules Michelet, l'historien du 19e siècle. Il a consacré, je crois, 30 années de sa vie à rédiger une monumentale histoire de la France qui, selon Taine, est vraiment l'épopée lyrique de la France. Nous avons d'ailleurs récemment évoqué cet académicien au cours d'une émission de Canal Académie sur Henri IV et sur Louis XIV. Michelet, cet écrivain engagé, partial par moments, et qui n'oublie pas qu'il est sorti du peuple, ce peuple dont il fera le grand acteur de l'histoire de la France.
Mais Michelet, c'est aussi un poète qui cherche dans la nature son inspiration. Il publie successivement L'oiseau en 1856, L'insecte en 1857 et La mer en 1861, enfin La montagne en 1864. Ses pages sur la nature et les animaux sont à la fois très lyriques et d'une grande justesse, en particulier quand il s'agit de décrire les mœurs de nos frères inférieurs. En effet, pour Michelet, les animaux sont de véritables personnes.
Écoutons donc ensemble quelques extraits tirés de la mer et consacrés à la baleine.
Le pêcheur, attardé dans les nuits de la mer du Nord, voit une île, un écueil, comme un dos de montagne qui plane énorme sur les flots. Il y enfonce l'ancre, l'île fuit et l'emporte. Léviathan fut cet écueil. Erreur trop naturelle. Dumont d'Urville y fut trompé. Il voyait au loin des brisants, un remous tout autour. En avançant, des taches blanches semblaient désigner un rocher. Autour de ce banc, l'hirondelle et l'oiseau des tempêtes, le pétrel, se jouaient, s'ébattaient, tournoyaient. Le rocher surnagé, vénérable d'antiquité, tout gris de coronules, de coquilles et de madrépores. Mais la masse se meut. Deux énormes jets d'eau qui partent de son front révèlent la baleine éveillée. L'habitant d'une autre planète qui descendrait sur la nôtre en ballon et d'une grande hauteur observerait la surface du globe, voulant savoir s'il est peuplé, dirait « Les seuls êtres qu'il m'est donné de découvrir ici sont d'assez belle taille, de 100 à 200 pieds de long. Leurs bras n'ont que 24 pieds, mais leur superbe queue de 30 bat royalement la mer, la maîtrise, les fait avancer avec une rapidité, une aisance majestueuse auxquelles on reconnaît très bien les souverains de la planète. » Et il ajouterait « Il est fâcheux que la partie solide de ce globe soit déserte, où n'est que des animalcules trop petits pour qu'on les distingue. La mer seule est habitée, et d'une race bonne et douce. La famille y est en honneur, la mer allaite avec tendresse, et quoique ses bras soient bien courts, elle trouve moyen, dans la tempête, de serrer contre elle-même et de protéger son petit. Ils vont ensemble, volontiers. On les voyait jadis naviguer deux à deux, parfois en grande famille de 10 ou 12 dans les mers solitaires. Rien n'était magnifique comme ces grandes flottes, parfois illuminées de leur phosphorescence, lançant des colonnes d'eau de 30 à 40 pieds qui, dans les mers polaires, montaient fumantes. Ils approchaient, paisibles, curieux, regardant le vaisseau comme un frère d'espèce nouvelle. Ils y prenaient plaisir, faisaient fête aux nouveaux venus. Dans leur jeu, ils se mettaient droits et retombaient de leur hauteur, à grand fracas, faisant un gouffre bouillonnant. Leur familiarité allait jusqu'à toucher le navire, les canots. Confiance imprudente, trompée si cruellement, en moins d'un siècle, la grande espèce de la baleine a presque disparu. Leur organisation sont celles de nos herbivores. Comme les ruminants, ils ont une succession d'estomacs où s'élabore la nourriture. Les dents leur sont peu nécessaires, ils n'en ont pas. Ils paissent aisément les vivantes prairies de la mer. J'entends les fucus gigantesques, doux et gélatineux. J'entends des couches d'infusoires, des bancs d'atomes imperceptibles. Pour de tels aliments, la chasse n'est pas nécessaire. N'ayant nulle occasion de guerre, ils ont été dispensés de se faire les affreuses mâchoires et les scies, ces instruments de mort et de supplice que le requin et tant de bêtes faibles ont acquis à force de meurtre. Ils ne poursuivent point. C'est l'aliment plutôt qui va à eux, apporté par le flot. Innocents et paisibles, ils engouffrent un monde à peine organisé qui meurt avant d'avoir vécu, passe endormi à se creuser de l'universel changement.
Comme chez les humains, les baleines connaissent aussi l'amour et l'enfantement. Nous écoutons Daniel Jeanne dans les lectures de ses textes écrits par l'académicien Jules Michelet.
La femelle porte 9 mois. Son agréable lait, un peu sucré, a la tiède douceur du lait de femme. Mais comme elle doit toujours fondre la vague, des mamelles en avant placées sur la poitrine exposeraient l'enfant à tous les chocs. Elles ont fui un peu plus bas, dans un lieu plus paisible, au ventre d'où il est sorti. Le petit s'y abrite, profite du flot déjà brisé. La forme de vaisseau inhérente à une telle vie resserre la mère à la ceinture et ne lui permet pas d'avoir la riche ceinture de la femme, ce miracle adorable d'une vie posée, assise et harmonique, où tout se fond dans la tendresse. Celle-ci, la grande femme de mère, quelque tendre qu'elle soit, est forcée de faire tout dépendre de son combat contre les flots. Du reste, l'organisme est le même sous cet étrange masque. Même forme, même sensibilité. Poisson dessus, femme dessous. L'amour, chez eux, soumis à des conditions difficiles, veut un lieu de profonde paix. Ainsi que le noble éléphant qui craint les yeux profanes, la baleine n'aime qu'au désert. Le rendez-vous est vers les pôles, aux anses solitaires du Groenland, au brouillard de Bering, sans doute aussi dans la mer tiède qu'on a trouvée près du pôle même. Ce qui rend cet hymen touchant et grave, c'est qu'il y faut l'expresse volonté. Ils n'ont pas l'arme tyrannique du requin à ses attaches qui maîtrise le plus faible. Au contraire, leur fourreau glissant les sépare, les éloigne. Ils se fuient malgré eux, échappent par ce désespérant obstacle. Dans un si grand accord, on dirait un combat. Des baleiniers prétendent avoir eu ce spectacle unique. Les amants, d'un brûlant transport, par instant dressés et debout, comme les 2 tours de Notre-Dame, gémissant, de leurs bras trop courts, entreprenaient de s'embrasser. Ils retombaient d'un poids immense. L'ours et l'homme fuyaient épouvantés de leurs soupirs. L'amour furtif si difficile, l'allaitement au roulis des tempêtes, entre l'asphyxie et le naufrage, les 2 grands actes de la vie presque impossibles, se faisant par effort et par volonté héroïque. Quelle condition d'existence ! La mère n'a jamais qu'un petit, et c'est beaucoup. Elle et lui sont tiraillés par 3 choses. Le travail de la nage, l'allaitement et la fatale nécessité de remonter. L'éducation, c'est un combat. Battu, roulé de l'océan, l'enfant prend le lait comme au vol, quand la mère peut se coucher de côté. Elle est dans ce devoir admirable d'élan. Elle sait qu'en son petit effort pour téter, il lâcherait prise. Dans cet acte où la femme est passive, laisse faire l'enfant, la baleine est active. Profitant du moment, par un puissant piston, elle lui lance un tonneau de lait. Le mâle la quitte peu. Leur embarras est grand quand le pêcheur féroce les attaque dans leur enfant. On harponne le petit pour les faire suivre. Et en effet, ils font d'incroyables efforts pour le sauver, pour l'entraîner. Il remonte, s'expose aux coups pour le ramener à la surface et le faire respirer. Mort, ils le défendent encore. Pouvant plonger et échapper, il reste sur les eaux en plein péril pour suivre le petit corps flottant.
Michelet constate que nous sommes bien forcés de tuer pour assurer notre nourriture. Nos dents, écrit-il, notre estomac, démontrent que c'est notre fatalité d'avoir besoin de la mort. Marguerite Yourcenar disait elle-même qu'il nous fallait digérer des agonies. Michelet ajoute « Nous devons compenser cela en multipliant la vie ». Alors, Michelet se montre très moderne, très visionnaire. Il réclame pour les espèces en voie de disparition, surtout pour la baleine, l'animal le plus grand, la vie la plus riche de toute la création, une paix absolue pour un demi-siècle.
La mer, qui commença la vie sur ce globe, en serait encore la bienfaisante nourrice si l'homme savait seulement respecter l'ordre qui y règne et s'abstenait de le troubler.
Merci Daniel Jeanne pour la préparation des textes de cette émission et pour ces belles lectures signées Jules Michelet. Merci à vous tous de votre fidélité à l'écoute de nos programmes sur Canal Académie et à bientôt.